Laudetur Jesus Christus.
Les doutes augmentent dans le camp des démocrates américains après le premier duel télévisé hier soir entre Joe Biden et Donald Trump. L'actuel locataire de la Maison-Blanche est apparu affaibli et confus. Analyse au début de ce journal. La Russie met en garde les États-Unis contre leurs drones qui survolent la mer Noire. Des propos tenus alors qu'une frappe ukrainienne a visé la Crimée le week-end dernier. Nous entendrons notre correspondant à Moscou. La Russie qui regrette les dernières nominations à la tête de la Commission européenne, entérinées hier soir par les 27, des nominations qui doivent être encore validées par le Parlement européen. Et puis nous entendrons le cardinal Guggerotti, le préfet du Dicaster pour les églises orientales. Il reviendra sur l'assemblée plénière de la Roi qui s'est achevé hier à Rome et où il a été beaucoup question de la guerre qui affecte les communautés chrétiennes orientales.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. L'embarras dans le camp démocrate américain après le premier débat télévisé de campagne hier soir entre Joe Biden et Donald Trump. L'actuel président, 81 ans, est apparu éprouvé, bafouillant ou confus, relançant les spéculations sur sa capacité à effectuer un second mandat. Un débat télévisé qui avait pourtant eu lieu à la demande du chef de la Maison-Blanche. Après ce face-à-face sur CNN, le camp démocrate a dû dépêcher la vice-présidente Kamala Harris pour tenter de rassurer. Corentin Célin est professeur spécialiste de la vie politique américaine.
L'argumentaire est « ce n'est qu'un débat, ce n'est qu'une mauvaise soirée ». D'autres présidents ont connu de très mauvais premiers débats, on peut penser à Obama en 2012. Et par ailleurs, Kamala Harris, dans ce qui peut apparaître néanmoins comme un sophisme, a invité à mesurer surtout le bilan excellent, d'après elle, de Joe Biden sur 3 ans de présidence et à ne pas s'en tenir au seul débat. Mais le problème, c'est que cet argumentaire est un peu court, puisque on sait que, selon les différents sondages, mais au moins 2/3 des électeurs démocrates étaient déjà très inquiets quant à l'âge de Joe Biden. Et évidemment, là, on ne peut plus contredire cette inquiétude. Et donc, on ne pourra pas mettre cette prestation sous le tapis. Néanmoins, il apparaît évident que Joe Biden, à l'heure où l'on se parle, n'a aucune intention de se retirer. D'ailleurs, très peu de temps après le débat, il a affirmé avoir fait une bonne prestation et être satisfait de sa prestation. Ce qui est d'ailleurs peut-être une partie du problème, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a une forme, sans doute, d'aveuglement de la part personnelle, de la part du président, sur ses aptitudes et sur là où il se positionne.
Et Corentin Célin, spécialiste de la vie politique américaine. La santé du président Biden qui inquiète aussi au-delà des frontières des États-Unis. Un responsable du gouvernement allemand chargé de la coopération bilatérale avec Washington a jugé ce matin que les démocrates américains, je cite, peuvent encore changer de candidat. Michael Link qui qualifie aussi les déclarations du candidat républicain Donald Trump en matière de politique étrangère de confuses et inquiétantes pour l'Allemagne et pour l'Europe. Après la frappe ukrainienne sur la péninsule de Crimée du week-end dernier, les tensions continuent de s'accroître entre Moscou et Washington autour de cette zone stratégique, la mer Noire. La défense russe a dénoncé la hausse du risque de confrontation directe entre la Russie et l'OTAN à cause de vols de drones américains dans la région. À Moscou, la correspondance de Jean-Didier Revoin.
Le ministère russe de la Défense a fait savoir ce matin qu'il préparait une réplique au vol de drones américains en mer Noire. Il n'a cependant donné aucune indication sur les mesures que Moscou pourrait mettre en place. Pour la Russie, ces vols multiplient la probabilité d'incidents dans l'espace aérien avec les avions des forces russes, ce qui augmente le risque d'une confrontation directe avec l'Alliance Atlantique. Selon la Défense russe, ces drones américains servent à la reconnaissance et à la désignation des cibles pour les armements fournis aux forces armées ukrainiennes par les Occidentaux. Selon le Kremlin, les frappes de missiles à longue portée Atakams, par exemple, ne peuvent pas être menées par les seuls Ukrainiens. C'est donc ces drones qui fournissent les renseignements nécessaires aux spécialistes occidentaux pour qu'ils puissent procéder à ces frappes. Le 24 juin, Moscou avait menacé les États-Unis de représailles, les accusant de tuer des enfants russes au lendemain d'une frappe ukrainienne en Crimée. Début juin, Vladimir Poutine avait menacé de livrer des armes équivalentes à des ennemis des Occidentaux pour qu'ils frappent leurs intérêts dans d'autres régions du monde. Jean-Didier Revoin, Moscou. Pour Radio Vatican.
Les nouvelles nominations de l'Union européenne sont mauvaises pour les relations avec Moscou. Réaction ce vendredi du Kremlin après le Conseil européen qui s'est tenu hier à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont mis d'accord pour reconduire Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, mais aussi pour nommer la première ministre estonienne, Kaja Kallas, à la tête de la diplomatie des 27. Elle succédera à Josep Borrell. Le Portugais Antonio Costa sera, lui, le président du Conseil européen. Un sommet qui a été traversé poussée par des tensions, des nominations qui ont en effet été vécues comme un diktat par deux pays, la Hongrie de Viktor Orban et l'Italie de Giorgia Meloni. Ces trois top jobs, comme on les appelle, doivent encore être validés par un vote du Parlement européen. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazet.
L'ancien Premier ministre portugais António Costa a la certitude de devenir le nouveau président du Conseil européen le 1er décembre, à la suite de Charles Michel. Il a été formellement élu, sa nomination est donc acquise. La situation de l'Allemande Ursula von der Leyen à la Commission et de l'Estonienne Kaja Kallas à la tête de la diplomatie européenne n'est en revanche pas encore définitive. Le Conseil européen se choisit son président en toute souveraineté, mais pour les deux autres postes, il faut l'aval du Parlement européen. Elles seront donc auditionnées toutes deux lors de la prochaine session plénière, vers le 17-18 juillet, et elles vont devoir convaincre, car rien n'est joué d'avance. Difficile de faire un pronostic pour Kaja Kallas. Toutefois, ancienne députée européenne elle-même, elle arrive avec une aura de respectabilité et de fermeté face à la Russie, qui devrait l'aider. En revanche, pour Ursula von der Leyen, cette audition reviendra à passer sous les fourches caudines du Parlement, car elle s'y est attirée des critiques pendant les 5 années écoulées. En 2019, elle avait d'ailleurs eu du mal à obtenir le feu vert du Parlement, décroché à quelques voix près. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
De nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza ce vendredi matin, notamment à l'est de la ville de Gaza. Des combats qui se poursuivent également entre Tsahal et le Hezbollah à la frontière avec le Liban. Les sirènes ont retenti ces dernières heures dans des localités du nord d'Israël. Les crises et les guerres qui frappent de plein fouet les chrétiens orientaux, qui étaient l'un des axes centraux de l'assemblée plénière de la Roaco, la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales qui s'est achevée hier par une audience avec le pape François. Ukraine, Terre Sainte, Syrie, Liban, Éthiopie, Érythrée ou encore Arménie. Jamais les chrétiens d'Orient n'ont été confrontés à autant de crises simultanées. Les chrétiens de ces régions du monde restent au cœur des préoccupations du Saint-Père. Pour le cardinal Claudio Guggerotti, le préfet du Dicaster pour les églises orientales, ces crises détournent une quantité considérable de ressources.
Le texte du Saint-Père était vraiment... Il a touché les points les plus significatifs de la situation et il a touché exactement ce qui a été discuté dans la session de la Roaco, c'est-à-dire le problème de la guerre. On va se préparer pour rébâtir ce qu'on avait déjà bâti, maintenant détruit, et que nous essayerons de rebâtir. C'est 3 fois la perte d'argent, de force, de travail qui pourrait être employé pour l'améliorement de la situation internationale et qui sont là simplement pour essayer de faire renaître ce qui a été détruit. Bâtir et détruire pour rebâtir, c'est vraiment la stupidité qui devient système.
Le cardinal Guggerotti, interrogé par Antonella Palermo, notre consoeur du programme italien de Radio Vatican. Le pape qui a reçu ce matin une délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople à l'occasion de la fête des Saint-Pierre et Paul. Ce sera demain. Le Saint-Père qui a rappelé l'anniversaire du premier concile œcuménique, celui de Nicée, dont les 1700 ans seront célébrés l'an prochain. François qui a aussi appelé à renouveler l'invocation de 2014 pour la paix en Terre Sainte.
Aide, toi aussi le pape a aidé. Manifeste par un petit geste de grande valeur symbolique ton amour et ta confiance envers le Saint-Père. Soutenons tous ensemble le Saint-Père dans l'annonce de l'Évangile et dans la charité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les familles en difficulté, les populations frappées par la guerre ou qui ont besoin d'assistance humanitaire. Va sur le site obolo.di.sanpietro.va et clique sur « Donner maintenant ».
Voilà pour cet appel à la générosité. Avant de refermer ce journal, sachez que les travaux de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, s'achèvent ce vendredi au Centre catholique Caritas de Kinshasa. À l'issue de ces assises, la CENCO a élu son nouveau président. Il s'agit de Mgr Fulgence Muteba, l'archevêque de Lubumbashi, qui succède à Mgr Marcel Outembi, l'archevêque de Kisangani. La messe de clôture de cette Assemblée plénière de la CENCO aura lieu ce vendredi dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Et elle sera présidée par le nouveau nonce apostolique en RDC, Mgr Lescovar, arrivé à Kinshasa le 15 juin dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité tout au long de cette semaine. L'information reviendra bien entendu encore ce soir à 18h. Vous serez accompagné de Xavier Sartre. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.